France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, les attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Le 15 mars 2019, le dénommé Brenton Tarrant, un ressortissant australien autoproclamé écofasciste, tue 51 personnes, toutes musulmanes, dans deux mosquées de la ville de Christchurch. La Nouvelle-Zélande est sous le choc. Jamais, depuis le début du 19e siècle et de la colonisation, elle n'avait connu pareille tuerie. Les Néo-Zélandais, dont le pays est alors considéré comme l'un des plus sûrs au monde, découvrent qu'ils ne sont épargnés ni par l'islamophobie qui s'est généralisée aux États-Unis et en Europe depuis les attentats du 11 septembre 2001, ni par le terrorisme. Les images de massacres, filmées et retransmises en direct sur Facebook par le tueur, font le tour du monde. Brenton Tarrant a choisi de faire d'Internet une deuxième arme pour mieux diffuser ses idées meurtrières. Ces crimes participent à révéler au grand jour l'existence de communautés en ligne dont la violence est telle qu'elle déborde des écrans, parfois, comme à Christchurch, jusqu'à éclater IRL, comme on dit sur Internet, in real life, autrement dit, dans la vraie vie. Notre invité aujourd'hui, Stéphane François, professeur de sciences politiques à l'Université de Mons, spécialiste de l'extrême droite et auteur de « Géopolitique des extrêmes droites », édité par le Cavalier Bleu en 2022. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Jeanne Maillard, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
L'après-midi débute à peine quand Daoud Nabi, tout juste 71 ans, rejoint le centre de la deuxième ville de Nouvelle-Zélande, Christchurch. Ce président de l'association de soutien aux réfugiés s'apprête à participer à la prière du vendredi à la mosquée Al-Noor, qu'il fréquente régulièrement depuis son arrivée dans le pays 40 ans auparavant, en 1979. Et il fuyait alors l'Afghanistan et la guerre avec l'URSS. Et la Nouvelle-Zélande, c'est son petit bout de paradis, comme il dit, le pays qui l'a accueilli et qui a vu grandir ses 5 enfants. Il faut dire que l'archipel est souvent reconnu comme un endroit où il fait bon vivre, non seulement en termes de climat, d'économie, d'emploi, de système éducatif ou d'égalité femmes-hommes, mais aussi pour ce qui concerne l'accueil des étrangers et le respect des religions de chacun. Malgré le développement discret de groupuscules et de partis d'extrême droite ces dernières années, la Nouvelle-Zélande semble en 2019 assez peu concernée par les amalgames anti-musulmans qui croissent un peu partout dans le monde. Islam et terrorisme islamiste, il semble que les Néo-Zélandais, eux, parviennent à faire la différence. Ce vendredi 15 mars 2019, le soleil est sans nuages à Christchurch, 340 000 habitants, dont 1% de musulmans. Ils sont environ 500 à fréquenter cette mosquée du centre-ville. Daoud Nabi écoute le sermon de l'imam Gamal Fouda avant que ne commence la prière. L'office continue. Il est 13h40 quand soudain, un homme armé d'un fusil semi-automatique pénètre dans le bâtiment, une caméra GoPro fixée sur la poitrine. « Que la fête commence !» s'exclame-t-il avant de s'approcher de plusieurs fidèles, dont Daoud Nabi, qui s'interpose. « Hello, brother !»« Bonjour, frère !» dit-il au tueur, pour tenter d'invoquer son humanité. Le vieil homme ne le sait sans doute pas, mais il est filmé, et 200 personnes assistent à sa mort en direct, alors qu'il est abattu de sang-froid de 4 coups de fusil. Daoud Nabi est la première victime de la tuerie de Christchurch. 50 autres personnes, enfants, femmes et hommes, mourront après lui ce jour-là.
Il y avait environ 145 personnes dans la salle. J'ai entendu le bruit d'une arme et là j'ai commencé à courir. Il y avait beaucoup de gens assis par terre. J'ai couru derrière la mosquée, je me suis assis et j'ai appelé la police. J'ai vu que certaines personnes couraient dans la pièce principale où j'étais. Et j'ai aussi vu des gens qui avaient du sang sur leur corps, des gens qui boitaient. À ce moment-là, j'ai réalisé que c'était vraiment sérieux.
C'est le nombre de personnes qui perdent la vie ce vendredi 15 mars 2019 dans les mosquées d'Al-Noor et de Lynwood à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. 49, plus deux autres qui décèdent à l'hôpital des suites de leurs blessures. 51 morts, donc, et des dizaines de blessés, parfois très graves, qui garderont toute leur vie des séquelles psychologiques et physiques. Parmi les défunts, il y a donc Daoud Nabi, ce père de famille d'origine afghane de 71 ans, la première victime du tueur et le premier corps identifié par les autorités. Il y a Ansi Alibaba, une jeune femme de 25 ans, tout juste diplômée en agrotechnologie, dont le conjoint a retrouvé le corps après être parvenu à appeler la police. Il y a Atta Elayan, membre de l'équipe néo-zélandaise de futsal et père d'une petite fille de 2 ans. Il y a Karam Bibi, une mère de famille pakistanaise de 63 ans, qui rendait visite à son fils ingénieur à Christchurch. Il y a Hamza Mustafa, 15 ans, et son père Khaled, deux réfugiés syriens. Il y a Mohamed Hock, 30 ans, étudiant dentiste, qui s'apprêtait à retrouver son Pakistan natal pour y ouvrir une clinique. Il y a enfin, et entre autres, Moukal Ibrahim, 3 ans, exécuté alors qu'il s'accrochait aux jambes de son père. Les témoins décrivent l'horreur, la panique, les corps entassés, le sang. Rarement un pays n'a connu d'attentats islamophobes si meurtriers. Le dernier en date, à la Grande Mosquée de Québec, en 2017, avait fait 6 morts. Attentat islamophobe et, précise Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise au soir du drame, attentat terroriste.
Je connais maintenant les détails des événements sans précédent qui se sont déroulés à Christchurch cet après-midi. Et il est clair que c'est une attaque terroriste. 4 personnes ont été arrêtées. Ce sont des gens que je décrirais comme ayant des opinions extrémistes, qui n'ont absolument pas leur place en Nouvelle-Zélande, ni dans le monde. Nous sommes une nation fière de ces 200 ethnies, 160 langues, et dans cette diversité, nous partageons des valeurs communes. Celle que nous partageons en particulier ce soir, c'est notre compassion et le soutien à la communauté qui est directement touchée par cette tragédie.
Parmi les 4 suspects interpellés le jour du massacre des mosquées de Christchurch, un seul est inculpé pour meurtre. Brenton Tarrant, un Australien de 28 ans, arrêté dans l'après-midi au volant de sa voiture alors qu'il se dirigeait vers une troisième mosquée. C'est lui qui a diffusé sur Facebook Live, en direct donc, la vidéo des attaques. Les enquêteurs remontent rapidement jusqu'à ses comptes sur d'autres réseaux sociaux, Reddit, Twitter, 8chan, où l'homme a publié, sous son vrai nom, des photos des armes à feu utilisées lors de la tuerie. Sur les canons des fusils, Brenton Tarrant a inscrit des mots marqueurs blancs. On y trouve des références à l'affaire de Rotherham, cette ville anglaise où plus de 1500 jeunes filles, blanches dans leur majorité, ont été violées par des pédophiles d'origine pakistanaise. Il y a aussi le nom de différents criminels condamnés pour des tueries racistes, comme Luca Traini en Italie, et ceux des militaires européens ayant combattu l'Empire ottoman au XVe siècle. Ces armes, des fusils semi-automatiques, sont facilement accessibles en Nouvelle-Zélande. Et c'est donc, en toute légalité, que le terroriste se les ait procurés. Immédiatement après le drame, la première ministre Jacinda Ardern annonce un durcissement de la législation néo-zélandaise en matière d'armes à feu, comme une tentative pour soulager et rassurer les cœurs meurtris de ses concitoyens. Malgré les appels des autorités néo-zélandaises à ne pas partager les images des tueries de Christchurch, Facebook retire en 24 heures 1,5 million d'extraits de la vidéo du tueur. 17 minutes filmées à la façon de ces jeux de tir en vue subjective, qui a été visionné par 200 personnes en direct, puis 4000 dans la demi-heure suivante, avant d'être supprimé par Facebook à la demande des autorités néo-zélandaises. Une vidéo en live, accompagnée d'un manifeste de 74 pages, qui lui aussi fait bientôt le tour du web.
Et on retrouve Hakim Abdelkalek à Christchurch. Bonjour Hakim. Ce matin, la Première ministre a fait une révélation pour le moins étonnante.
Oui, effectivement, la Première ministre néo-zélandaise a indiqué que 9 minutes avant le début de l'attaque, son cabinet avait reçu par courrier électronique le manifeste du terroriste, un manifeste anti-musulman, anti-immigrant, où il explique pourquoi il voulait s'en prendre à la communauté musulmane. Immédiatement, eh bien, ce mail a été transféré au service de sécurité. 2 minutes après, ce mail avait été adressé à un mail générique du cabinet du Premier ministre, mais il ne contenait aucune indication concernant le lieu, la date, le mode opératoire, les cibles envisagées, ce qui fait évidemment que les forces de l'ordre n'ont pas pu anticiper l'attaque. Et il n'y a pas que le cabinet de la Première ministre qui avait reçu ce mail. Toute une série de personnes, une trentaine de personnes l'ont reçu, notamment le chef de l'opposition, le Parlement, ainsi que des médias néo-zélandais.
C'est sur Twitter, ainsi que sur le forum 8chan, connu pour être fréquenté par une engeance composée d'internautes anti-immigration, anti-islam et anti-féminisme, que Brendan Tarrant poste son manifeste. Sur la couverture de ce long texte, un symbole nazi composé de 3 swastikas, connu sous le nom de « Soleil noir ». Il y a ensuite cette intro, dans laquelle le terroriste de 28 ans affirme en lettres capitales l'existence d'un « génocide blanc ». Nous devons assurer l'existence de notre race et un futur pour les enfants blancs, écrit-il. Reprenant ainsi une formule du suprémaciste américain David Lane, connu dans les mouvances néo-nazies comme le slogan des 14 mots. Dans son texte, Brendan Tarrant réfute les qualificatifs qu'on pourrait logiquement lui apposer. Non, il n'est ni nazi, ni néo-nazi, ni antisémite, ni islamophobe. S'il a assassiné 51 musulmans à Christchurch, ce 15 mars 2019, explique-t-il ensuite, c'est pour venger les centaines de milliers de morts causées par les invasions étrangères en Europe tout au long de l'histoire, ainsi que les milliers de victimes des attentats, je le cite bien sûr. En revanche, Brendan Tarrant accepte sans façon d'être qualifié de nationaliste, de raciste et de fasciste. Il se veut même éco-fasciste, résumant ainsi sa pensée, il faut tuer les envahisseurs, tuer la surpopulation et ainsi sauver l'environnement. Dans son manifeste, il liste également ses modèles. D'abord, celui qu'il surnomme le chevalier justicier, le terroriste norvégien d'extrême droite Anders Breivik, qui a tué 77 personnes, dont une majorité de jeunes adhérents du Parti travailliste, à Oslo et Utøya en juillet 2011. Il y a aussi Candace Owens, une youtubeuse afro-américaine ultra-conservatrice et fervente soutien de Donald Trump. Le président américain, enfin l'ex, est quant à lui célébré comme un symbole de l'identité blanche retrouvée. Mais l'inspiration principale du manifeste du terroriste de Christchurch vient de France, oui. Le titre de son texte, « The Great Replacement », est une référence explicite à l'essayiste d'extrême droite Renaud Camus et à sa théorie du grand remplacement. Il en donnait lui-même une définition en 2011 sur France Culture, répondant à Alain Finkielkraut.
Vous m'avez annoncé un peu comme une menace, hors antenne, hors micro, que vous alliez m'interroger sur ce que j'appelle le grand remplacement. Le grand remplacement, c'est le fait qu'il y ait un peuple et que tout d'un coup, il y ait un autre peuple, ou plusieurs autres peuples. Je crois que c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Il y a un changement de peuple et que ce changement de peuple est manifestement lié à de nombreuses agressions. Je crois que ce que nous appelons la nocence qui va justement des dites incivilités jusqu'aux actes de terrorisme correspond bien à ce changement de peuple qui est un changement de civilisation.
La théorie du grand remplacement, devenue depuis le leitmotiv d'Éric Zemmour, remonte au XIXe siècle et visait à l'origine les Juifs, avant que Renaud Camus et ses recrues ne fassent des musulmans leur cible préférée. Brendan Tarrant ne donne pas le nom de l'essayiste français, condamné en 2014 pour provocation à la haine et à la violence contre un groupe de personnes en raison de leur religion. Et pourtant, l'inspiration est là, évidente, funeste. Le grand remplacement, c'est bien l'idée qui se cache derrière le massacre. L'autre élément fondateur, et peut-être déclencheur, des attentats de Christchurch, c'est la présidentielle française de 2017, explique le terroriste dans son manifeste. À l'époque, le jeune homme, qui a hérité de l'argent de son père, voyage en France. Il assiste avec amertume à la défaite de Marine Le Pen, qu'il estime par ailleurs trop molle, et il cesse de croire en la possibilité d'une solution politique. L'impulsion finale, écrit-il, est venue de la découverte de l'état des villes françaises. Les envahisseurs étaient là, dans chaque ville, dans chaque village. Les Français étaient souvent en minorité. Alors qu'il visite un cimetière militaire de la Seconde Guerre mondiale, ému aux larmes, pétri des contradictions et des amalgames haineux qui fondent son idéologie, Brenton Tarrant pense avoir une idée. Puisqu'aucune solution politique n'existe, pourquoi n'agirait-il pas lui-même? Ce serait donc en France que les terroristes auraient fomenté l'idée de l'attentat de Christchurch. Seul, c'est ce que la justice tant néo-zélandaise que française va chercher à comprendre. Analyse sur ce point d'Anne-Claire Pagnard sur France 2.
Oui, un passage en France mentionné par le suspect lui-même dans le manifeste qu'il a laissé. Les policiers français sont donc en train de vérifier si cette information est établie. Et si c'est le cas, eh bien, ils vont chercher à savoir où il a circulé, qui il a rencontré et dans quelles circonstances il a pu voyager. À noter que le suspect n'est pas connu des services de police français. Ce matin, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a annoncé un renforcement de la sécurité autour des lieux de culte. Des patrouilles vont être organisées pour renforcer cette sécurité. Et le ministre de l'Intérieur qui appelle, je cite, les préfets à la plus grande vigilance.
Les bruits sourds qui nous parviennent de l'appartement du troisième empêche l'immeuble de dormir. On m'a chargé de vous écrire. Ces gens-là sont différents. Je ne reconnais pas leur accent. Que va devenir notre France si l'on ne peut pas dire ce qu'on pense? J'entends déjà sur la plaine. Je me comprends, comprenez-moi. De mon temps, ce n'était pas comme ça. On réglait ce genre de problème à coups de matraque et de chaîne. Ils voudraient s'asseoir sur nos souches, nous voler le pain de la bouche. Ce qui cause mon tourment, que vont-ils faire à mes enfants? J'entends déjà sur la plaine le vol noir de jet. Toujours les corbeaux reviennent. Entendez-vous sur la plaine le vol noir de jet. Toujours les corbeaux reviennent. Signé en bon français. Mes courriers restaient lettres mortes. Le danger était à nos portes. J'ai fait ce qu'il faut pour qu'enfin ils sachent ce qu'est un bon voisin. Et n'écoutant que ma fureur, en lettres de sang, votre honneur, à la plume noire je signerai un bon français. J'entends déjà sur la plaine. Yeah.
Aujourd'hui, la tuerie de Christchurch.
France Inter.
Le traumatisme vivra en moi pour toujours. Les images, l'odeur à l'intérieur de la mosquée, ce jour-là me hante.
Je ne peux pas te pardonner. Tu as brisé les rêves de tant d'innocents.
Affaires sensibles.
Le vendredi 22 mars 2019, des milliers de Néo-Zélandais et de Néo-Zélandaises assistent à la prière du vendredi dans un parc proche de la mosquée Al-Noor où sont mortes 42 personnes une semaine auparavant. Jacinda Ardern, la première ministre, porte un foulard en hommage et en soutien aux victimes toutes musulmanes. Barbarie, extrémisme, violence ignoble, haine raciste. D'Emmanuel Macron à Theresa May, en passant par Angela Merkel sur Twitter, les chefs d'État et de gouvernement européens dénoncent le racisme du terrorisme. Alors, du terroriste. Alors que les présidents turcs et pakistanais, eux, pointent la montée de l'islamophobie dans le monde et la prégnance des amalgames entre terrorisme et islam à l'origine du drame. Une semaine après les attentats de Christchurch, l'OCI, l'Organisation de coopération islamique, une organisation intergouvernementale de 52 pays, appelle la communauté internationale à prendre des mesures concrètes contre l'islamophobie en s'abstenant notamment de toute politique, déclaration ou acte associant l'islam au terrorisme et à l'extrémisme. En France, les agressions spécifiques contre des musulmans ont augmenté depuis les attentats de 2001, puis ceux de 2015 et 2016, venant se joindre aux actes de haine à l'encontre des juifs, également en hausse ces dernières années. Dans les jours qui suivent les attentats de Christchurch, le ministère de l'Intérieur français appelle les préfets à la vigilance et place des militaires armés devant certaines mosquées, comme à Reims. Reportage de France 3 Grand Est avec le président de la mosquée de Reims, Mohamed Bouzagou, et son responsable de la communication, Khalid Aloumi.
Nos craintes en tant que musulmans, c'est les récidives. Je ne sais pas si c'est du pouvoir public, mais en tout cas, si on pouvait éliminer, éradiquer ces discours de haine, notamment sur certains médias télévisés, également de certains politiques, je pense qu'on y gagnerait.
C'est arrivé en Nouvelle-Zélande, ça peut arriver en France. Quand on voit que la parole s'est un peu libérée à la télé, au niveau des politiques, certains même appellent à la déportation des musulmans. Et on n'entend pas grand monde. Enfin, le silence assourdissant des élus nous interroge et nous questionne.
Médiatiquement, en France comme ailleurs, la haine anti-musulman n'est pas toujours l'angle privilégié des rédactions pour aborder le drame de Christchurch. Ce qui occupe le média, c'est surtout le rôle joué par les réseaux sociaux, tant dans le processus de radicalisation du terroriste que dans la diffusion de la vidéo des tueries filmée et retransmise en direct par Benton Tarrant via Facebook Live avant de se répandre sur Internet comme une traînée de poudre. Car le terroriste australien a volontairement fait du web un instrument au service de la propagation de ses idées nauséabondes. Son manifeste et ses comptes Facebook, Twitter et Chan donnent à voir un internaute averti à détourner même ses contenus humoristiques conçus pour devenir viraux et du shitposting, une forme de provocation en ligne qui vise à faire dérailler les conversations. Quelques secondes avant la tuerie, Tarrant invite les utilisateurs de 8chan à partager son manifeste, mais aussi à le transformer en mème et autres contenus détournés, avec l'idée d'en faciliter la diffusion, ce que la fachosphère en ligne va s'empresser de faire en créant par exemple un petit jeu vidéo de shitposter dont le but est de tuer des musulmans au fusil d'assaut. The Great Replacement, le manifeste du tueur, lui, est traduit en plus de 10 langues par des internautes qui n'hésite pas à faire circuler des photos du terroriste grimé en chevalier chrétien, une auréole sur la tête. En France, Catherine Blain, conseillère régionale de Bretagne et ancienne élue du Front National, tweet « Tuerie en Nouvelle-Zélande, œil pour œil », évoquant ainsi la loi du talion. Idéologique, vengeresse, délirante, similaire à celle de l'État islamique dont les attentats revendiqués au Sri Lanka commis en représailles de ceux de Christchurch font 359 morts en avril 2019, œil pour œil. L'élue française, pour ses propos, sera condamnée à un an de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité pour apologie du terrorisme.
La première ministre de Nouvelle-Zélande, Madame Jacinda Ardern, et moi-même venons de co-présider la réunion de l'appel de Christchurch pour l'élimination du terrorisme et de l'extrémisme violent en ligne.
Merci beaucoup d'avoir collaboré avec la Nouvelle-Zélande. L'attentat du 15 mars à Christchurch a été un événement sans précédent, c'est-à-dire qu'il a utilisé les réseaux sociaux afin de diffuser ce message de terrorisme et d'extrémisme. La vidéo a été partagée à une telle vitesse que YouTube a enregistré une mise en ligne par seconde pendant les 24 premières heures. Aujourd'hui, nous réagissons avec l'adoption de l'appel à l'action de Christchurch.
Deux mois après le drame de Christchurch, le 15 mai 2019, le président français et la première ministre néo-zélandaise s'engagent contre la diffusion de contenus haineux en ligne. Ils lancent l'appel de Christchurch. Facebook en particulier est critiqué pour les failles de son système de modération. Qui n'a pas repéré la vidéo sanglante de Brenton Torrent ? Et pour son algorithme qui a favorisé la propagation de la vidéo des tueries. Les plateformes, découvre-t-on, mobilisent alors davantage leurs équipes sur des contenus liés au terrorisme islamiste que sur ceux qui appellent à la haine raciste. En réponse à l'appel de Christchurch, Facebook prend quelques engagements, tels que la suppression de 250 comptes liés au white power, le suprémacisme blanc, ou l'amélioration de sa capacité à détecter des armes sur vidéo, comme celle de Brenton Tarrant. Mais le nerf de la guerre, c'est la façon dont sont conçus les algorithmes, de façon à rendre viraux les contenus qui appellent à l'émotion, y compris lorsqu'ils promeuvent la violence raciste. Et de ce côté-là, pas de changement, puisque la viralité, on le sait, c'est le fondement même des réseaux sociaux et de leur écosystème.
Un tireur a semé la mort ce samedi aux abords d'un centre commercial à El Paso. Il s'agit d'un homme blanc âgé de 21 ans. Il a été interpellé puis placé en garde à vue. Il aurait rédigé un manifeste retrouvé par la police, manifeste dans lequel il est question de la tuerie xénophobe de Christchurch survenue le 15 mars en Nouvelle-Zélande. Manifeste qui dénonce l'invasion hispanique. La police soupçonne donc un crime à caractère raciste.
Dans son manifeste, Brenton Tarrant invite les lecteurs à l'imiter. « Préparez-vous, entraînez-vous, formez les alliances », écrit-il. « Les hommes occidentaux doivent une nouvelle fois se comporter comme des hommes. » Un appel à la violence qui trouve malheureusement son public dans les semaines puis les mois qui suivent les attentats de Christchurch, d'où la tuerie raciste d'El Paso, au Texas, en août 2019. 23 morts, tous latino-américains, au nom d'une idéologie écofasciste qui mêle théorie du grand remplacement et conscience écologique en s'appuyant sur une soi-disant équation entre immigration et pollution. En avril 2019, à Poway, en Californie, un jeune homme de 19 ans tue une femme dans une synagogue après lui avoir publié un manifeste en ligne et cité Brenton Tarrant en modèle. En août de la même année, en Norvège, un homme inspiré par celui qu'il appelle Saint Tarrant tue sa demi-sœur d'origine chinoise avant d'attaquer une mosquée près d'Oslo, blessant une personne. En octobre, à Halle, en Allemagne, un homme se filme et diffuse les images sur Twitch en direct, alors qu'il attaque une synagogue et un kebab tuant deux personnes. Enfin, à New York, en mai 2022, un tueur qui se dit lui aussi inspiré par Brenton Tarrant cible une épicerie afro-américaine et fait 15 victimes dont la mort est retransmise en direct sur Internet.
Monsieur le procureur de la Couronne, pouvez-vous présenter les charges à la Cour ?
Brenton Harrison Tarrant est accusé de 51 meurtres, 40 tentatives de meurtre dans le cadre d'une entreprise terroriste.
Brenton Harrison Tarrant, pour chacune de ces accusations, que plaidez-vous ? Coupable ou non coupable ?
Oui, coupable.
Et vous êtes accusé d'avoir commis un acte terroriste le 15 mars 2019 à Christchurch. Que plaidez-vous ? Coupable ou non coupable ?
Coupable.
Le 26 mars 2020, un an après la tuerie qu'il a perpétrée à Christchurch en Nouvelle-Zélande, Brenton Tarrant plaide coupable en vidéoconférence depuis sa prison d'Auckland pour les 51 meurtres, 40 tentatives de meurtre et pour les accusations de terrorisme qui pèsent contre lui. Le procès, qui doit avoir lieu 5 mois plus tard, le 24 août, se déroulera sans ses avocats puisque le terroriste australien les a renvoyés. Dans un rapport de 792 pages, la commission d'enquête missionnée par le gouvernement de Jacinda Ardern pointe 2 défaillances dans l'affaire de Christchurch. La législation du pays sur le port d'armes, laxiste, et l'excessive concentration des services de renseignement sur le terrorisme islamiste aux dépens d'autres menaces. Elle pointe également le rôle d'Internet et en particulier de YouTube dans la construction idéologique de Brenton Tarrant ainsi que ses voyages. Avant son séjour en France, l'ancien coach sportif de 28 ans aurait visité les Balkans et peut-être été en contact avec des militants d'extrême droite locaux comme le groupuscule bulgare anti-migrant BNO Chikpa, connu pour organiser des stages d'entraînement aux armes. Il aurait également fait des dons de quelques milliers d'euros aux branches autrichiennes et françaises de Génération Identitaire, un mouvement dissous dans l'Hexagone en 2021. Le procès du terroriste australien s'ouvre le 24 août 2020 à la Haute Cour de justice de Christchurch, 17 mois après les faits. Pendant 3 jours, des dizaines de personnes, victimes et proches de victimes, se succèdent à la barre pour raconter le dernier câlin d'un petit-fils fauché dans l'adolescence, les mauvaises blagues d'un mari qui n'est plus, les blessures, les souvenirs qui hantent. Il y a cette mère qui a décidé de pardonner ce fils au visage déformé par la rage, ou encore cette jeune femme qui se souvient de son père.
Je me demande s'il a souffert, s'il a eu peur et quelles ont été ses dernières pensées. Et plus que tout au monde, j'aurais voulu être là pour lui tenir la main et lui dire que tout irait bien.
But I couldn't do that.
Mais je n'ai pas pu. Jamais je n'aurais imaginé que le pays dans lequel mes parents ont immigré, pour sa sécurité et pour offrir un avenir à leurs enfants, finirait comme ça.
This didn't have to happen.
Ça ne devait pas arriver.
Let it be known, these tears are not for you. Just to clarify.
Sachez que mes larmes ne sont pas pour vous, juste pour que ce soit clair.
Face à toutes ces personnes en larmes, qui le regardent dans les yeux, qui l'apostrophent, l'insultent parfois, Brenton Tarrant reste de marbre. Pas un mot, pas un geste pour les 51 morts, 49 blessés et leurs familles. Aucune réaction non plus. Quand le 27 août 2020, il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et renvoyé à l'isolement dans l'unité spéciale pour détenus à haut risque de la prison d'Auckland. Sur le site d'extrême droite Riposte Laïque, un contributeur français s'inquiète alors des conditions d'enfermement du terroriste australien et appelle à le soutenir. Pour la Noël, pensez à envoyer une lettre réconfortante à un prisonnier de guerre, écrit-il dans un article encore en ligne à ce jour. Avant d'enlever la vie à 51 personnes parce qu'elles étaient de confession musulmane, le terroriste Brenton Tarrant a fait partie de ces internautes anonymes qui, derrière leurs écrans, cultivent la haine raciste, salissant le web de leur violence et de leur bêtise. En France, selon le journal Le Monde, 9 projets d'attentats d'extrême droite ont été déjoués depuis 2017. Une menace moindre que le terrorisme islamiste, 41 attentats empêchés depuis 2017, mais en hausse. En novembre 2022, Brenton Tarrant a fait appel de sa condamnation, arguant avoir reconnu les faits sous la contrainte. Pour les survivants et les survivantes des tueries, pour les familles des victimes, c'est un nouveau traumatisme. Aujourd'hui, la tuerie de Christchurch. Notre invité Stéphane François, bonjour.
Bonjour.
Professeur de sciences politiques à l'Université de Mons, spécialiste de l'extrême droite et auteur de « Géopolitique des extrêmes droites », édité par le Cavalier Bleu en 2022. Alors, je vous propose d'analyser ensemble des extraits du manifeste publié sur Internet par Brenton Tarrant avant les attentats de Christchurch, parce que tout est dedans. En tout cas, les racines et les ressorts de ce drame sont dedans. Et donc, pour tenter de comprendre en quoi la pensée du terroriste australien rejoint certaines logiques identitaires et suprémacistes à l'œuvre aujourd'hui en France et dans le monde. On va commencer par The Great Replacement, c'est donc le titre de ce manifeste de Brenton Tarrant, qui se traduit par « Le grand remplacement ». Rappelons la définition de, ce concept.
Alors, la définition, l'extrait avec Renaud Camus l'explique très bien,
oui.
C'est l'idée d'une substitution ethnique, le remplacement d'un peuple par un autre peuple. Et cette idée-là est intéressante parce qu'on va retrouver ça sur le point sur l'écologie dont on parlera sûrement un peu plus tard.
Mmh.
Alors, cette idée, contrairement à ce qu'on peut croire, ne vient pas de Renaud Camus. Camus l'a reformulée récemment, mais cette idée-là, on la retrouve, hein, comme vous l'avez dit dans le reportage, dès le 19e siècle avec l'antisémitisme, mais aussi... et surtout pour nous, à partir des années 50, c'est-à-dire qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, des groupes de nazis ou de néo-nazis ont considéré que les nations européennes devaient se débarrasser de leur empire colonial, donc comprendre de peuples de couleur, évidemment tous entre guillemets, au risque d'être substitués, d'être remplacés par les populations coloniales. Donc c'est une idée qu'on trouve dans l'extrême droite néo-nazis des années 50. Or, cette extrême droite néo-nazie est à l'origine des discours identitaires. C'est-à-dire que ces discours vont être euphémisés progressivement dans les années 50, 60, 70 pour devenir le discours qu'on connaît aujourd'hui, hein, identitaire. Avec, derrière ça, un autre point, le côté ethnique va être mis de côté, il va pas être oublié, mais il va être minimisé au profit de la culture. C'est-à-dire que un musulman, c'est un musulman qui vient d'une autre ère civilisationnelle, qui a d'autres valeurs qui ne correspondent pas aux civilisations blanches, sous-entendu européennes. Et vous voyez, la mécanique, hein, va se mettre en marche progressivement. On va avoir en France, par exemple, un regain de ce type de racisme dans les années 60 suite à la guerre d'Algérie, notamment avec un groupuscule qui s'appelle Europe Action de Dominique Vénère. Et ça va se diffuser un peu partout en Europe et puis ensuite en Occident.
Est-ce qu'on peut considérer que y a une hausse du phénomène depuis quelques années ? Ou est-ce que finalement, ça existe depuis les années 50 ?
Alors, non, il y a une hausse. Alors, effectivement, il y a des périodes basses et hautes. Il y a une période haute, après la guerre d'Algérie. Pour prendre le cas de la France, ça va diminuer progressivement, hein, dans les années 80. Entre la fin des années 70 et les années 90, on va voir, par exemple, une extrême droite qui va être pro-arabe. Pourquoi ? Parce que cette extrême droite est anti-américaine.
Oui, anti-américaine, oui.
Et antisémite,
oui.
Anti-Israël. Donc, on va voir cette extrême droite qui va disparaître progressivement avec deux événements majeurs. Le premier, c'est la guerre de Yougoslavie, avec des moudjahidines qui vont se battre aux côtés des Bosniaques.
Des mercenaires, oui, qui viennent en Bosnie.
Des mercenaires.
Absolument.
Et ensuite, on a évidemment le 11 septembre. Et là, cette extrême droite pro-arabe va progressivement disparaître au profit d'un autre discours, hein, qui va être ouvertement anti-arabe, anti-musulman. Et je fais bien la distinction entre les deux.
Bien sûr,
et
on va y revenir, mais juste un retour sur le grand remplacement. Donc cette théorie représentée par Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle est présentée comme une vérité, peut-être aussi considérée comme un fantasme, donc un élément complotiste. Des idées qui ont fédéré plus de 7% d'électeurs à la présidentielle de 2022, rappelons-le. Est-ce qu'on est dans une démarche complotiste ?
On est toujours dans une démarche complotiste quand on parle d'extrême droite. Il y a toujours un complot. Prenons simplement un phénomène, un accident majeur qui a eu lieu dans les années 2000, la fameuse explosion de l'usine AZF. AZF. Elle a été présentée aussitôt par des militants identitaires comme un acte terroriste islamiste. Alors qu'on le sait très bien, c'est un problème de
l'accident industriel.
Industriel, hein, c'est un problème de stockage de produits incompatibles dans un hangar qui a provoqué l'explosion. On est dans le complotisme. Mais après, c'est le cœur de l'extrême droite, de la géopolitique de l'extrême droite. Il y a toujours un complot. Un complot juif, un complot communiste, un complot, il y a toujours un complot.
Ouais. Un complot judéo-maçonnique aussi en son temps.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Stéphane François, je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Mons, spécialiste de l'extrême droite et auteur de Géopolitique des extrêmes droites, édité par le Cavalier Bleu en 2022. Dans son manifeste, Bretton Tarrant alors, se revendique ethno-nationaliste et éco-fasciste, donc pour l'autonomie ethnique de tous les peuples, la préservation de la nature et de l'ordre naturel. Alors, quelle est donc cette équation ?
Alors, là, il y a deux choses. Ethno-nationaliste, c'est quelqu'un qui fonde son discours nationaliste sur l'ethnie. Ça, c'est quelque chose qui est important. Avec un bémol ou un point relativisé chez Tarrant, c'est-à-dire qu'il considère qu'il y a une ethnie blanche, hein, il le dit dans son manifeste, qu'il est d'origine irlandaise, écossaise, etc. Et au sein de cette grande unité raciale blanche, il y a des particularismes à protéger. Donc là, on a le détail, hein, l'identité écossaise, irlandaise, etc. Ça, c'est un premier point. Et cet ethno-nationalisme se structure sur une conception particulière de l'écologie. Tout simplement, ces militants considèrent que chaque peuple doit être vu comme une espèce animale, et chaque peuple a donc un territoire. Et sur ce territoire, il peut y avoir des espèces invasives, hein, je suis désolé de parler comme ça, mais c'est le contenu du discours, dont il faut se protéger. En gros, si je peux faire un parallèle qui peut être malheureux, mais qui est tout à fait parlant pour comprendre l'idée, c'est par exemple les frelons asiatiques qui se sont implantés en Europe et qui détruisent la biodiversité européenne. Voilà. Les étrangers sont assimilés à ce type d'espèces invasives. Donc on a un discours écologique particulièrement violent, parce que c'est une écologie des populations qui dit grosso modo, hein, chaque civilisation chez elle, et on respecte la diversité. Alors ce ethno-nationalisme est intéressant parce qu'ils sont agressifs lorsqu'ils sont envahis. Mais je prends cet exemple parce que j'ai eu des discussions avec des militants identitaires. Si la charia est appliquée dans la zone civilisationnelle arabo-musulmane, ça ne les dérange pas.
Ouais.
Pourquoi ? Parce
ouais.
que ce n'est pas chez nous, c'est chez eux.
Je vois. Dans son manifeste, Bretton Tarrant écrit, par ailleurs, « Les hommes forts n'acceptent pas que leur culture soit dégradée et que leur peuple meure. Des hommes faibles ont provoqué cette situation et les hommes forts doivent régler ça. Jusqu'à ce que Sainte-Sophie à Istanbul soit libérée des minarets, les hommes européens n'ont d'hommes que le nom. Qui sont ces hommes forts et ces hommes faibles dans le cerveau, quand même ?» C'est passablement dérangé de ce Tarrant.
Alors, les hommes forts, ce sont les guerriers, les croisés. Là, la référence à Sainte-Sophie est explicite. Ce sont les croisés, les chevaliers. On est dans cet imaginaire, hein, d'ailleurs, Tarrant, dans son manifeste, fait référence à Charles Martel. On est dans cet imaginaire viriliste, où il y a d'un côté des guerriers qui se battent coûte que coûte pour la grandeur de leur nation. Et les hommes faibles, c'est le côté tout à fait décadentiste qu'on trouve à l'extrême droite, hein, c'est-à-dire que les hommes ne sont plus des hommes, mais vous mettez toute une série de qualificatifs pas très sympathiques à tendance homosexuelle. L'idée est là, c'est-à-dire qu'on a perdu la virilité, l'art de se battre, de défendre son territoire. On vient toujours à cette idée-là, et c'était une vieille antienne à l'extrême droite, hein. Il faut retrouver cette virilité combattante.
Alors vous disiez tout à l'heure que les idées d'extrême droite avaient connu un moment plus faible des années 60 jusqu'à l'orée des années 90, qui étaient des années où les idées de gauche étaient plutôt en forme. Hein, ici et là, on vit aujourd'hui une période qui est plutôt dans un balancier, qui semble plutôt réactionnaire que révolutionnaire. Est-ce que ces gens-là, d'extrême droite, profitent aussi de cette situation, selon vous ?
Ah, totalement. Il profite totalement de cette situation. On le voit notamment en France avec l'apparition de partis. Vous avez parlé de Reconquête tout à l'heure qui faisait 7% aux élections. C'est quand même impressionnant vu le discours ultra-radical qu'il y a derrière.
Eh oui.
C'est quelque chose qui est tout à fait intéressant pour moi et inquiétant en général. Et d'un autre côté, vous voyez aussi l'apparition de think tanks, d'instituts divers et variés. D'ailleurs, il y en a un qui est adossé plus ou moins à Reconquête d'Éric Zemmour, c'est l'Institut Iliade, hein, qui est né de la mort de Dominique Vénère, ce militant d'extrême droite, partisan de l'Algérie française, anti-gaulliste, proche de l'OAS, qui avait développé un discours totalement raciste dans les années 60 avec sa revue Europe Action. L'Institut Iliade, quand vous regardez les colloques, les publications, ça tourne toujours autour des mêmes thèmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait de nous des Européens ? On retrouve le côté identitaire. L'écologie, comprise en sens identitaire, etc., etc., etc. Il y a une banalisation de ces idées-là.
Quand on pense extrême droite, au pluriel, hein, car il existe un grand nombre de mouvances d'extrême droite, réactionnaires, révolutionnaires, identitaires, néo-nazis, catholiques, monarchistes, entre autres. On pense conservatisme, tradition et pas franchement nouvelles technologies. Or, elles sont importantes, les nouvelles technologies dans la diffusion de ces idées-là. Historiquement, quel rôle a joué Internet pour l'extrême droite ?
Alors, Internet intéresse l'extrême droite depuis quasiment sa fondation, son apparition. Parmi les premiers sites Internet qu'il y a eu, on a des sites néo-nazis, suprémacistes blancs américains. En France, on a un parti comme le Front National qui a été un des premiers à avoir eu aussi un site Internet. Internet joue un rôle majeur parce que cela permet à des groupes minoritaires numériquement de diffuser leurs idées de manière massive.
Et en employant des termes que dans la sphère publique, des termes qui ne sont pas légaux, il y a aussi ce côté, par l'anonymat, de pouvoir dire tout ce qu'on veut, y compris ce qu'on ne devrait pas dire.
Ah, totalement. Totalement. On a plusieurs stratégies. On a d'un côté une stratégie de banalisation des idées. On a une stratégie de diffusion par l'humour, les mèmes, etc. Et on a aussi une autre stratégie, c'est celle qui permet à des groupuscules, à des idées interdites, négationnisme, etc., de se diffuser sous le couvert de l'anonymat. Internet, c'est vraiment quelque chose qui est important. Pourquoi ? Parce que avant l'apparition d'Internet, comment ces groupes diffusaient leurs idées ? Par des publications confidentielles, envoyées par courrier.
Donc évidemment, voilà. moins efficace.
Alors, largement moins efficace.
Face à la menace de ceux que le tueur terroriste désigne comme les envahisseurs, donc Brenton Tarrant ne semble voir qu'une solution, la guerre. Parce qu'il écrit « Attendez-vous à la mort, attendez-vous au combat, attendez-vous à des pertes que vous n'oublierez jamais, n'espérez pas survivre, la seule chose que vous pouvez attendre, c'est de mener une vraie guerre et de mourir en vrai soldat ». Ça rappelle aussi les terroristes extrémistes, fondamentalistes musulmans.
Ah, totalement.
C'est la même démarche, finalement.
C'est la même démarche, ce sont des constructions en miroir. C'est-à-dire que les terroristes à la Tarente ne voient dans l'islam que les islamistes. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que voilà, le reste des musulmans, ils ne connaissent pas. Ce sont deux supposés musulmans modérés, entre guillemets. Voilà, on est dans une radicalisation des discours. Mais à côté de ça, votre propos sur l'idée de guerre, c'est une idée qu'on trouve depuis les années 90 chez certains. Je vais prendre un exemple français, là encore, Guillaume Faye, qui est décédé il y a quelques années. Faye avait publié des livres qui ont été interdits, hein, il a été condamné plusieurs fois, La colonisation de l'Europe, Notre avant-guerre, La nouvelle guerre civile, etc., etc. Les titres sont parlants. Oui. C'est l'idée. Justement, depuis la fin des années 90, début 2000, que nous sommes dans des guerres de civilisation.
Bien sûr.
Ils sont des gens qui ont accepté et intégré l'état de Huntington, ça sera le choc des civilisations.
Bien, Stéphane François, ce sera le dernier mot. Merci, en tout cas, pour vos éclairages. Au revoir. Et Affaires Sensibles aujourd'hui, la tuerie de Christchurch, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Roland Mahé.